Le croix des Éphésiens, nous lirons les 13 premiers versets. Dans ce paragraphe, Paul reprend le discours, un discours. Il va le reprendre sur légèrement différent, quoique utilisant ce qu'il a dit dans les deux premiers chapitres, mais il va tout de suite à nouveau se nommer « Moi, Paul ». Moi, Paul, pour dire « prisonnier de Christ ». Dans ce passage, il va d'ailleurs essentiellement parler de son ministère d'apôtre, et c'est en parlant du ministère d'apôtre qu'il va montrer par contraste les richesses incompréhensibles de Christ. Je dis par contraste, parce que vous voyez que dans ce passage, Paul veut se montrer dans toute sa faiblesse prisonnier de Christ. C'est un prisonnier qui envoie une lettre aux Éphésiens et à d'autres destinataires. C'est lui, prisonnier, lui qui semble être dans le revers, avoir subi des revers irréparables, des revers peut-être qui peuvent se traduire par la pensée que les bénédictions de Dieu lui sont refusées. Lui, prisonnier, ça, humainement, ça ne paraît pas glorieux, ça ne paraît pas être une attestation de sa puissance. Eh bien, il va parler de cela. Il va parler aussi de ce qu'il est le moindre de tous les saints, le plus petit, et par contraste, il va montrer que, cependant, Dieu lui a donné la révélation, une révélation extraordinaire dont il est lui-même étonné, une révélation du mystère de Christ. Donc, il va nous parler aussi du mystère de Christ. Il est prisonnier de Christ. Dans d'autres épîtres, il parlera de ses liens pour Christ, ou même des liens de l'Évangile, dans l'épître à Philémon. Les liens de l'Évangile. Ce qui veut dire qu'il se voit prisonnier, mais il est prisonnier parce que il a répandu l'Évangile. Et c'est bien cela qui a fait qu'on l'a arrêté, qu'on l'a battu même. C'est parce qu'il n'a pas consenti à cesser d'annoncer l'Évangile. Que fait la croix de Christ? Elle crucifie le péché et vivifie le pécheur. Et que fait la persécution du monde? J'allais presque dire la croix du monde, n'est-ce pas? Eh bien, elle meurtrit ou tue le corps, mais c'est cependant un sujet de joie et de gloire. Donc, les deux choses vont parfaitement ensemble, la croix de Christ portée qui crucifie le pécheur, qui vivifie le pécheur, et aussi à cause de cette croix que le monde ne comprend pas et qu'il persécute les meurtrissures ou les privations de liberté, comme c'est le cas, qui sont un sujet de gloire et de joie. Dans l'acceptation des liens et des persécutions à cause de l'Évangile, je dis bien à cause de l'Évangile, trop souvent, des chrétiens nous parlent de souffrance ou de persécution ou de tribulation, et ce sont des choses qui leur viennent parce que, à cause de leur mauvais comportement, leur mauvaise conduite. Alors là, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Attention, c'est que ça fait deux choses. Enfin, il s'agit pas de ça pour Paul, c'est pas parce que il a mal agi, parce qu'il s'est mis en colère, parce que il a voulu se mêler de choses politiques, etc. Non, 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 non. C'est uniquement parce que, avec sagesse, avec fermeté, mais aussi avec grand amour, il a annoncé l'Évangile. Eh bien donc, dans l'acceptation des liens ou des persécutions à cause de l'Évangile, Paul montre sa grande charité pour tous ceux qui ont trouvé le salut par son moyen. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, pour vous, c'est pour vous. c'est-à-dire c'est par amour pour vous. Le Seigneur, avec le don du Saint-Esprit, lui a donné cet amour, et cet amour le pousse, le presse d'annoncer l'Évangile, et par conséquent, cela montre qu'il y a en lui une très grande charité. Et la charité, c'est cela, c'est d'annoncer l'Évangile. La charité, ce n'est pas, vous savez, de s'occuper d'un tas de choses matérielles. La grande charité pour ceux qui ont une vocation, pas très précise, c'est de travailler dans le sens de cette vocation. En dehors de cela, ils ne sont pas charitables, ou ils seraient charitables selon une conception humaine. La véritable charité, qui veut dire amour du Seigneur, c'est de poursuivre la vocation, c'est de donner aux autres le fruit du don que l'on a reçu de Dieu. Comme dit Pierre, n'est-ce pas? Donner aux autres le don, réserver aux autres le don qu'on a reçu de Dieu. C'est ça, la charité que nous demande le Seigneur. C'est celle-là. Les choses qui seraient d'ordre matériel étant négligeables à côté de cela, même si de temps à autre, il faut bien y participer, ces choses négligeables. La véritable charité, c'est celle-là. Le monde ne comprend pas cela. Imagine que la charité, ça consiste à faire comme les membres de la conférence Saint-Vincent de Paul et d'aller tous les mois avec un petit panier de provisions chez quelques vieux dont on a la liste, n'est-ce pas, pour leur apporter ça. C'est gentil, ça leur fait plaisir, n'est-ce pas? C'est bien, mais c'est pas ça qui leur donne la vie. Et d'aller, je le dis souvent à quelqu'un que je connais bien et qui est membre précisément de la conférence Saint-Vincent de Paul, je dis, c'est très bien, tu leur donnes de quoi manger, ça les aide beaucoup, c'est certain, tu fais bien, tu te fais pas mal, mais il y a quelque chose de terrible, c'est que tu les laisses dans la mort. Parce que leur as-tu annoncé l'Évangile? Non. Tu les laisses dans la mort. Et ça, c'est pas la charité, ça. N'est-ce pas? La charité, c'est donc d'utiliser le don qu'on a reçu de Dieu, n'est-ce pas? De ne cesser de l'utiliser pour vous, pour les autres. Et puis, Paul n'a-t-il pas été une source de bénédiction pour eux? Nous n'oublions jamais, n'est-ce pas? Nous faisons en ce moment l'étude des patriarches. N'oublions jamais que nous sommes dans le cadre de la promesse faite à Abraham. Elle continue cette promesse, elle est en train de s'accomplir, de continuer à s'accomplir jusqu'au retour du Seigneur. Eh bien, dans cette promesse, il était dit que à Abraham, qu'il serait une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, une source de bénédiction. Parce que quand on travaille, n'est-ce pas, à cette postérité qui se construit par la foi, qui se construit, cette postérité, elle est nommée en Isaac, dans le fils de la promesse. Elle est nommée en Isaac, dit Paul, n'est-ce pas? Eh bien, si on travaille à construire cette postérité, qui est la postérité de Christ, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la même. Eh bien, mes amis, là, n'est-ce pas, on travaille dans le cadre de la promesse d'Abraham, et en effet, on apporte aux autres cette bénédiction dont le point de départ, Abraham, a été, lui, le premier à s'entendre dire qu'il serait source de bénédiction pour le monde. Et c'est vrai, parce que sa postérité, c'est précisément la postérité bénie. Il est une source de bénédiction, d'autant plus que Paul a conscience d'une dispensation qu'il a reçue par le moyen d'une révélation. Il ne vient pas les mains vides, il vient justement, et sa charité consiste en cela, nous venons de le dire, il vient vers les païens avec dans les mains, je dis dans les mains, hein, c'est une image, avec dans le cœur, si vous voulez, n'est-ce pas, mais aussi dans tout ce qui anime son être, il vient avec une dispensation, c'est-à-dire quelque chose à répandre. Une dispensation, c'est une chose à répandre. Alors, il vient avec une chose à répandre, et cette dispensation, il l'a connue, il l'a eue, non pas des hommes, mais directement du Seigneur, par le moyen d'une révélation. D'une manière générale, disons ceci, c'est que les auxiliaires de Dieu sont ceux qui sont oints Aucun n'est auxiliaire s'il n'est oint du Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont destinés à être oints, puisque le don du Saint-Esprit est pour tous. Et les chrétiens sont auxiliaires de Dieu en ce sens qu'ils sont les témoins de Christ. Eh bien, les auxiliaires de Dieu sont donc des oints du Saint-Esprit, et ils reçoivent de Dieu, par Christ, des choses à répandre. Ils reçoivent aussi, eux, une dispensation qui prend place dans la grande dispensation de la grâce, mais ils reçoivent, ils ont une dispensation des œuvres préparées d'avance. Vous devriez tous, mes amis, être conscients d'avoir une dispensation de choses à répandre, des choses à répandre. Mais attention, on ne s'acquitte pas de ça, n'est-ce pas, en allant simplement regarder les boîtes aux lettres et en mettant des papiers dedans et disant au bout de 2 heures de ce travail, ça y est, c'est fini, j'ai rempli mon rôle, n'est-ce pas? Vous avez parlé à des boîtes aux lettres, je ne sais pas, mais écoutez, je me suis trouvé à Paris assez souvent, je parle surtout pour les Parisiens, ben, je ne vous empêche pas de répandre des papiers, mais ne dites pas que vous avez terminé quand vous avez fait ça. Ne dites surtout pas ça. Ben, ne pensez pas que cela a épuisé, loin de là, le témoignage que Dieu attend de vous. D'ailleurs, ce n'est pas ça le témoignage. Ça peut être quelque chose qu'on vous demande, bon, vous le faites, c'est bien, je ne vous dis pas le contraire, mais ne croyez pas cela. Je me suis trouvé à Paris souvent, dans différentes maisons, et je me rappelle à Colombes notamment, où je suis resté un certain nombre de jours, et le matin, on m'avait laissé un appartement, le matin je descendais, et quand le facteur était passé, je voyais par terre un amoncellement de papiers effroyables au-dessous des boîtes aux lettres, hein. Tous les prospectus et les machins qui étaient là-dedans, ils étaient par terre. Il fallait les remuer avec le pied. Un jour, en remuant comme ça avec le pied, j'ai trouvé des choses chrétiennes. C'était là-dedans aussi. Après, le concierge venait avec un grand balai et un seau, il mettait tout ça là-dedans et ça allait à la poubelle. Alors, n'est-ce pas, attention, il y a des choses à répandre, il y a des choses à donner. Et ça, c'est des choses à donner en se dépensant soi. Même si vous vous êtes dépensé à répandre des prospectus ou des petits papiers dans les boîtes aux lettres, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que vous n'avez pas encore commencé à ce moment-là ce qui s'appelle vraiment le témoignage pour Christ. Le témoignage pour Christ qui demandera que vous payiez de votre personne et que vous vous présentiez non pas devant des boîtes aux lettres fermées, mais que vous vous présentiez devant vos semblables, devant des personnes que le Seigneur, si vous le demandez, mettra sur votre voie, sur votre chemin. Heureux ceux qui peuvent, lorsqu'ils vont chez un commerçant, lorsqu'ils ont des occasions, n'est-ce pas, parlent tout de suite, n'est-ce pas, et parlent du Seigneur. Heureux ceux-là, c'est ce que le Seigneur attend d'eux qu'ils parlent. Et attention, que rien dans leur vie ne puisse contredire ce que leur bouche affirme. Ou qu'il n'y ait pas le oui et le non, mais le oui des deux côtés. Alors, je disais donc qu'il y a des choses à répandre, et que par tous les auxiliaires de Dieu qui sont loin du Saint-Esprit, et ce n'est pas pour leur propre avantage que ces auxiliaires sont loin. Ça n'a jamais été, dans toute la Bible, ça n'a jamais été pour leur avantage. Au contraire, ils vont en éprouver de la souffrance qu'ils accepteront avec joie. Ce n'est pas pour leur bonheur personnel qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, qu'ils sont oints. Ce n'est pas pour leur bonheur. Je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas leur bonheur. Mais je dis que l'onction n'est pas... Le Seigneur n'a pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez heureux. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Ah, là, il a dit, heureux serez-vous, n'est-ce pas? Mais, quand il a dit, une puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, n'est-ce pas? Alors, il a dit, vous serez mes témoins. Donc, ce n'est pas pour un bonheur personnel mais c'est pour répandre quelque chose qui est une dispensation, la dispensation par le témoignage. Ce n'est pas pour son bonheur personnel que Moïse a été chargé par Dieu de conduire le peuple dans le désert. Vous savez, il s'en serait mieux trouvé de rester à garder les brebis de Jéthro, son beau-père, parce qu'elle lui obéissait bien mieux que le peuple d'Israël. Hein? Oh, mais oui, elles obéissaient très bien, les brebis, avec son simple bâton. Hein? Et quand il a été amené à utiliser ce bâton pour conduire le peuple de Dieu, eh bien, ça a été une autre affaire, et il a eu du mal. Il a eu beaucoup de mal. Mais ce n'était pas pour son bonheur. À un certain moment, il ira devant Dieu, il dira, « Seigneur, un peu plus, ils vont me lapider. » Ça y est, ils me lapideront. N'est-ce pas ? Il s'en faut de peu qu'ils ne me lapident. Voilà, ce n'était pas pour son bonheur. Ce n'était pas pour son bonheur personnel que Josué a dirigé le peuple dans la conquête de Canaan et s'étant fait, par la volonté de Dieu, le capitaine d'Israël. Ce n'était pas pour son bonheur. Lui aussi, il a rencontré bien des souffrances. Ce n'était pas pour son bonheur que David a été oint comme roi. Voyez combien d'années il a été pourchassé, poursuivi par Saül. Ce n'était pas pour son bonheur. Lui qui gardait les brebis de son père, eh bien, il a été obligé d'aller de caverne en caverne et même de s'expatrier, tant la mort le poursuivait partout. Ce n'était pas pour son bonheur personnel. Il était en train d'être forgé pour être le roi selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas pour son bonheur personnel que Jérémie fut qualifié de prophète de Dieu. Vous savez, lisez-le. À un certain moment, Jérémie dit, « Ah, malheur au jour qui m'a vu naître !» C'est pas très beau. Mais qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ce prophète était vraiment persécuté, meurtri, on l'a jeté dans le fond d'une citerne, entre autres choses. Et vous savez que le Seigneur Jésus a rendu lui-même un témoignage au prophète en disant que aux pharisiens, « Vos pères ont tué les prophètes !» Ils ont tué les prophètes. C'était pas pour leur bonheur. Et vous savez, quand nous lisons Hébreux 11, la deuxième partie d'Hébreux 11, n'est-ce pas, verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas eu de rémunération jusque-là. Ils n'ont pas obtenu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Il faut qu'ils nous attendent. Et ils sont encore en train de nous attendre. Parce que le jour de la résurrection n'est pas encore venu. N'est-ce pas ? Ils sont en train d'attendre encore. Et pourtant, voyez, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, ils allèrent çà et là, dénués de tout. C'est pas pour leur bonheur, mais ils avaient des choses à répandre. Ils avaient des choses à faire, et ils les ont faites. Et chers amis, c'est ça, c'est la leçon que nous devons tirer. Nous ne pouvons pas lire des choses comme ça. Paul parle de lui-même, de sa vocation, de son ministère, soit. Il n'est plus là, Paul, mais nous, nous sommes là. Et nous avons à tirer leçon de toutes ces choses. C'est pour nous que tout cela est dit. Le mystère révélé. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Paul vient d'écrire sur ce mystère dans les deux premiers chapitres, en effet. Il a déjà parlé de ce mystère, même sans employer le mot mystère. Il a parlé du dessein de Dieu. Il nous a montré, déjà découvert, des choses magnifiques dans le plan de Dieu et choses incompréhensibles à l'esprit humain, C'est-à-dire, c'est là le sens du terme mystère, une chose incompréhensible à l'esprit humain, les richesses incompréhensibles de Christ. C'est incompréhensible à l'esprit humain. C'est une chose, donc, le mystère incompréhensible, mais qui demeure secrète, par conséquent, jusqu'à ce que Dieu consente à révéler par son esprit. Nous avons déjà vu ça, la révélation par l'esprit, je n'insisterai donc pas. L'Évangile, lui, contient le mystère de Christ, et c'est dire, par conséquent, combien l'Évangile est impénétrable par la seule intelligence humaine. Impénétrable. On pourra, lire, triturer la lettre, faire de l'explication comme on fait de l'explication française en littérature, mais ça n'ira pas loin. Les richesses resteront incompréhensibles et on ne les recevra pas. Alors, c'est dire aussi, puisque l'Évangile contient ce mystère qui est incompréhensible à l'esprit humain et qui doit être révélé, ça montre une chose, c'est que le Nouveau Testament n'est pas un code. Je dis le Nouveau Testament, je pourrais dire toute la Bible, mais on me dirait, il y a la loi de Moïse là, n'est-ce pas, et il y a des éléments qui sont là formels. Il y a des préceptes, il y a des ordonnances. Bon, alors, je ne dis pas à cause de ça, bien que je pense que l'Ancien Testament aussi est une pensée. C'est bien d'ailleurs ce que laissait entendre le Seigneur Jésus. Eh bien, le Nouveau Testament particulièrement n'est pas un code, mais il apporte la lettre du mystère. Et cette lettre du mystère que la Bible retient, qu'elle a conservée pour nous, n'est-ce pas ? Cette lettre du mystère, il faut la pénétrer par l'Esprit qui seul vivifie. C'est infiniment enrichissant de méditer sur la manière dont le Seigneur Jésus et les apôtres utilisaient l'Ancien Testament. C'est quelque chose d'extraordinaire. On voit bien qu'ils ne l'utilisent pas dans la seule portée littérale. Ils savent donner une envolée à toutes sortes de choses, et particulièrement, bien sûr, le Seigneur Jésus. Vous savez, si l'on se met à cette école, on est comme les deux disciples sur la route d'Emmaüs. On s'aperçoit qu'il y a dans l'Ancien Testament une magnifique révélation. Mais que dire aussi du Nouveau Testament qui a une révélation et qui n'est pas un code. Si je dis cela, c'est parce que trop de chrétiens ont cette habitude de dire est-ce que c'est écrit ça, ou ça c'est pas écrit, ça c'est pas dit, ça c'est dit. Alors où est-ce que c'est dit ça, voyons. Alors ils consultent la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, comme on consulterait par exemple le code civil, le code pénal, n'est-ce pas, en cherchant l'article L1382, n'est-ce pas, avec l'article R324, etc. Non. Ça n'est pas cela, la Bible. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, dans la Bible, il n'est pas interdit de fumer. Ben oui, j'ai entendu ça, et pas moi seul. Ou il n'est pas interdit de faire telle chose. Et il n'est pas dit que l'on doive ceci, que l'on doive cela. C'est une pensée, c'est un mystère qui se révèle, et s'il est reçu, ce mystère, si les paroles de Christ sont gardées, reçues intérieurement, et si le Saint-Esprit met son éclairage là, sur ce mystère, alors là, nous saurons ce que nous avons à faire. Mais jamais, chers amis, c'est une preuve véritablement d'extrême faiblesse, et ça, une faiblesse qui n'est pas bonne, que de considérer la Bible comme un code, comme une somme de préceptes, n'est-ce pas ? Il faut toujours chercher le précepte qui s'adapte à telle ou telle situation. Non, c'est pas ça. Paul vient donc d'écrire sur ce mystère, le mystère qui développe l'œuvre de Christ et la personne elle-même de Christ. Il faut en comprendre les aspects de ce mystère qui sont bien exprimés en langage humain dans nos Bibles, n'est-ce pas? Mais il faut en comprendre spirituellement des aspects qui sont dénués d'apparence, c'est-à-dire vous ne les verrez pas, vous ne les saisirez pas, les aspects du mystère, si vous ne laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la méditation. Le Saint-Esprit vous conduira à découvrir les aspects, et je sais que vous l'avez fait déjà, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens l'ont fait, tout à coup, n'est-ce pas? S'ils s'appliquent à méditer dans la prière, il y a quelque chose qui leur parle particulièrement, quelque chose. Mais continuez, persévérez dans cette voie, et vous verrez s'ouvrir la compréhension du mystère caché, mais révélé, révélé aux saints. Il n'est pas révélé qu'à Paul, il est révélé aux saints, nous l'avons vu l'autre jour. Donc il y a des aspects qui sont dénués d'apparence, même dans la lettre, qui sont cachés, et pour en comprendre l'infinie sagesse, pour en comprendre l'immense ressource d'amour, pour en comprendre toute la richesse, il faut le Saint-Esprit. Paul nous dit qu'il a reçu une intelligence de ce mystère de Christ. Évidemment, on lisait ça, n'est-ce pas, sans prendre garde au contexte, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On en recueillerait tout de suite l'idée, n'est-ce pas, que Paul sort un petit peu de la réserve de la modestie qu'il enseigne d'autre part, de l'humilité même, et que, n'est-ce pas, il se pavane un petit peu. Ce n'est pas cela, bien sûr. S'il le dit, c'est toujours dans cette idée de contraste que je vous ai donnée au commencement. C'est dans cette pensée de contraste. Paul ne peut pas être taxé ici d'orgueil, n'est-ce pas? Pas du tout. Il a reçu une intelligence, c'est-à-dire une compréhension et une pénétration profonde. Il est allé dans les profondeurs du mystère. Une pénétration profonde du mystère de Christ. Et quand a-t-il eu ça? À quelle circonstance fait-il allusion ici? En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il a eu certainement des révélations, n'est-ce pas? Mais il y en a une que nous connaissons et qui a été tout à fait extraordinaire, celle-là. C'est dans 2 Corinthiens 12, nous l'avons vu déjà l'autre jour, 2 Corinthiens 12, verset 2. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, à cause de l'excellence de ces révélations. Ainsi Paul a été ravi, et il ne sait pas à ce moment-là comment il vivait. Il ne sait plus. Il a perdu complètement la notion, n'est-ce pas, de l'équilibre humain, de la personne humaine. Il ne sait pas si avec son corps, sans son corps. Ce qui veut nous dire, n'est-ce pas, qu'il était vraiment là. Il avait sa personnalité, il avait sa pensée, il avait son cœur, mais il ne sait pas comment. Hein. En tout cas, le voici enlevé, n'est-ce pas? Il fut enlevé jusque dans le paradis, et là, il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer, mais ces paroles, il les a, lui, entendues, il ne peut pas les redire. Jean aussi a eu des paroles qu'il ne peut pas redire. Alors, de les avoir vues, ont leur gloire, ces révélations, ces réalités, n'est-ce pas? Il a vu des réalités. Les paroles, évidemment, ce ne sont pas des paroles détachées des réalités, mais les paroles concernaient les grandes réalités du mystère de Christ. Alors, d'avoir vu ces réalités en leur gloire, dans un immense relief de la gloire, du ciel, n'est-ce pas? Il a vu ces réalités, mais plus alors au niveau de la terre. Il les a vues dans ce niveau supérieur au paradis, n'est-ce pas, là, hors du visible, en dehors du visible. Il était en dehors du visible. C'est pour ça, n'est-ce pas, il ne sait plus comment il vivait. Il était en dehors du visible, il était dans l'invisible, là, vraiment, là, il était là. Et alors, il entend ces paroles, il a donc touché, senti ces grandes réalités du mystère de Christ, à ce moment-là, dans leur gloire. Et alors, il pourra en parler, lui, en langage humain. Il peut en parler en langage humain, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il dit. Il faut que chacun juge à ce qu'il voit en moi ou qu'il entend de moi. Voit en moi, entend de moi. Voyez-vous? Bon, alors il a eu donc vu ces réalités, les grandes réalités du mystère de Christ. Le souvenir qu'il en conserve élève son cœur, élargit son cœur, lui permet déjà d'être autre qu'il n'aurait été, voit ce qu'on voit en moi, autre qu'il n'aurait été, et ils, de son cœur, peuvent alors partir des enseignements d'une profondeur qu'il n'aurait jamais pu ouvrir, livrer, s'il n'y avait eu cette révélation, cette extraordinaire révélation. Il a eu cela, il a eu d'autres révélations certainement, n'est-ce pas? Nous n'en doutons pas, mais vous voyez quelle révélation il a eue. Hein. Si l'on en croit certaines relations qui ont été figurées dans le journal Catacombe et dans d'autres journaux aussi venant de Suisse notamment, il y a un certain Russe qui est mort persécuté il n'y a pas longtemps, c'était un jeune soldat. Il y a eu de longs articles à son sujet, a été très jeune, à l'âge de 20 ans, un croyant remarquable, peu importe son origine, n'est-ce pas, il était un croyant remarquable. Et je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, il a été lui aussi ravi, n'est-ce pas? Il a été ravi, dans son corps ou sans son corps, on ne sait, n'est-ce pas, on ne peut pas le dire, il a été ravi, et il est allé, lui aussi, dans la cité de Dieu. Il a été emmené. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il a été emmené par des anges. C'était au moment où il était dans le sommeil, il a été emmené par des anges. Il croit que c'est avec son corps. Avec son corps, il croit. Oui, enfin, il a eu, c'est ce qu'il pense. Et il a été enlevé, et il a vu la cité de Dieu. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce récit de sa vision de la cité de Dieu, parce que je ne me glorifie pas non plus, notez, mais enfin, j'ai une interprétation sur l'Apocalypse, la cité de Dieu, qui correspondait très bien à la vision qu'il a eue, n'est-ce pas? Alors, ça m'a tout de même été très utile, n'est-ce pas? On a fait quelquefois de cette ville un cube, c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? C'est une ville qui est très haute parce qu'elle est située sur une très haute montagne. Alors, voilà, n'est-ce pas, une chose. Il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas accès à cela, il n'y a rien qui soit en opposition avec l'Écriture, il y aurait quelque chose qui serait en opposition avec ça, ce serait le manque de foi, bien sûr. Hein. Beaucoup de gens sont tellement réservés, dès que la foi devient à bord d'un domaine un petit peu éthéré, bah, ils ont peur, tout de suite, ils ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Pas si vous avez peur, mais moi, je n'ai pas peur. Mais attention, toujours, n'est-ce pas, contrôler avec ça. Et vous, ça, c'est notre grand contrôleur. La Bible, c'est le grand contrôleur. Eh bien donc, il y a des visions, des révélations. Ne demandez pas des visions comme celle de cet Ivan, n'est-ce pas, de ce jeune Russe, qui a été martyrisé, lui, parce que peut-être que si vous aviez la vision, vous seriez aussi martyrisé. Il faudrait peut-être les deux choses, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné beaucoup, n'est-ce pas, mais il lui a demandé beaucoup aussi. A été terriblement martyrisé. n'est pas dit que nous aurons toujours des visions, que nous aurons tous des visions. Mais des révélations, oui. Il nous faut des révélations. Et vous voyez que les révélations ont un champ excessivement vaste. Il vous faut des révélations. Nous avons vu que l'apôtre priait pour qu'il y ait dans l'Église un esprit de révélation. Dans le temps de Paul, tous les chrétiens judaïsants, les judéo-chrétiens, comme on les appelle quelquefois, les chrétiens qui sortaient du judaïsme et qui avaient reconnu le Seigneur Jésus comme le Messie, bien sûr, ils étaient entrés dans l'Église, ils avaient même formé les Églises. Avant qu'il y ait des païens, ils avaient formé beaucoup d'Églises, pas mal d'Églises. Il ne faut jamais oublier cela. Eh bien, ces judaïsants eurent le plus grand mal à recevoir et à comprendre l'Évangile. Et de leur part, il y eut toujours une grande résistance, qui a été un problème très grave dans l'Église primitive. Beaucoup de résistance. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient toujours, ils avaient cette manie, ce penchant d'être attachés à la lettre, terriblement à la lettre. Ils ne pouvaient pas se dégager de la lettre, voyez-vous. Et alors, bien entendu, empêchait le Saint-Esprit de leur ouvrir le cœur pour comprendre vraiment la puissance de Dieu. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont attachés à la lettre, ceux qui parlent toujours de versets bibliques comme on parle des articles du code pénal, hein, eh bien, ceux-là se ferment, attention, à la compréhension profonde de l'Évangile. Prenons bien garde à cela. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Par le grand dessein de Dieu, par la puissance de rédemption, le corps de Christ englobe tous les hommes qui sont passés par la naissance d'eau et d'esprit. Voilà ce que veut nous dire ce verset 6, n'est-ce pas ? C'est que tous les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Donc, c'est par le dessein de Dieu, selon le dessein dont Paul nous a parlé au chapitre 1er, par la puissance de rédemption, bien sûr, que le corps de Christ donne accès, il s'agrandit toujours, c'est l'édifice qui se construit de pierre, toujours de pierre vivante. Le corps de Christ englobe tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur pays, quelle que soit la couleur de leur peau, leur race, peu importe tout cela. Les juifs, les grecs, les hommes, les femmes, devant le Seigneur, ils sont un, n'est-ce pas ? Il n'y a pas plusieurs catégories. Il n'y a pas d'acception de personne. Alors, le corps de Christ englobe donc tous les hommes qui sont passés. Il faut qu'il soit passé par la naissance d'eau et d'esprit. Ça, c'est essentiel. Et rappelons-le nous toujours. Ils sont tous promis à l'héritage des saints. Le mystère de Christ est un mystère d'accomplissement, accomplissement par Jésus-Christ, et venu accomplir, un mystère de révélation, Christ glorifié révèle, un mystère de communication, le Saint-Esprit nous met en communication, nous apporte ce qui est à Christ et nous le donne. C'est donc un mystère qu'on peut dire, mystère d'accomplissement par Christ. Ça, c'est le mystère, mystère de Christ. Mystère de révélation, c'est toujours le mystère de Christ. Hein. C'est lui qui est révélé. Et dans le mystère, il est prévu une révélation. Jésus l'avait dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et non aux sages et aux intelligents. Une révélation et une communication par le Saint-Esprit, cela fait l'objet des enseignements derniers du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, je vous l'enverrai, le paraclet, l'Esprit de vérité, je vous l'enverrai, il vous révélera, il vous apprendra la vérité, toute la connaissance de la vérité, exactement, littéralement. Et puis, il sera, non pas extérieurement, mais il sera en vous. Il y a donc là, n'est-ce pas, la constitution du corps par une communication du Saint-Esprit. On pourrait dire aussi que ce mystère de Christ comprend Les choses suivantes, c'est une petite récapitulation, j'en ai déjà fait une l'autre jour, mais il est bon de faire souvent une petite récapitulation. Bah, et d'avoir bien dans l'esprit la récapitulation du mystère de Christ. Alors, je citerai 1, 2, 3, 4, 5 choses, n'est-ce pas ? 5 choses dans le mystère de Christ. Premièrement, la rémission des péchés. C'est dans le mystère de Christ. Rémission des péchés, moyennant la foi et la repentance, bien entendu. Rémission des péchés. Deuxièmement, je dirais la filiation divine en Christ, ou si vous voulez, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et par conséquent d'être sur le plan de Christ. Le pouvoir de devenir enfant de Christ. Une filiation. Ils ne sont plus gens de chair, ils sont gens d'esprit. Et ce n'est pas l'œuvre de la chair et du sang, c'est l'œuvre de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Nés de Dieu. Alors, donc, le pouvoir de devenir enfant de Dieu que nous avons appelé la filiation divine en Christ. Troisièmement, l'intégration en un seul corps. Ça, c'est très, très important. Ne prenons pas tout ce qui nous est dit du corps comme simplement des images. Intégration en un seul corps. Et quatrièmement, le don de l'esprit avec pour corollaire le témoignage. Vous serez mes témoins. Le don de l'esprit. Et cinquièmement, l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage qui est réservé aux saints. Voilà le mystère de Christ dans ses, si vous voulez, les grandes lignes. Nous avons dit qu'il était un mystère d'accomplissement, un mystère de révélation et un mystère de communication, de transmission à chacun. Parce que, j'ai eu l'occasion de le dire, s'il n'y avait que l'accomplissement de Christ, s'il n'y avait que la révélation du mystère et que vous ne puissiez pas, les uns et les autres, en être faits bénéficiaires par le Saint-Esprit, ça vous donnerait grand-chose, n'est-ce pas ? Quand on me dit, par exemple, Rothschild est très riche, il a une grande fortune, hein, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il est très riche, bon. Mais ça, c'est pas ça qui m'enrichit. Je veux bien le croire, n'est-ce pas, qu'il est très riche. C'est pas ça qui m'enrichit. Eh bien, n'est-ce pas, si l'on nous disait, il y a une magnifique rédemption en Jésus-Christ, magnifique rédemption, ça a été accompli sur la croix par résurrection, et il y a une rédemption. Oui, mais j'en voudrais, moi, de cette rédemption. Je voudrais, il faut qu'il y ait communication. Donc, dans le mystère de Christ, il y a ces trois choses, et nous avons vu que le contenu intérieur du mystère de Christ, c'était ces cinq choses, rémission des péchés, filiation divine, intégration en un seul corps, don de l'esprit et héritage. La grâce qui a été faite à l'apôtre Paul le remplit d'admiration, de la bonté, de la puissance de Dieu. Il va dire, j'ai été fait ministre, l'évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Il a été fait ministre par la puissance de Dieu, mais selon une grâce, et tout cela le remplit d'étonnement et l'humilie, parce qu'il va dire, à moi, cela m'a été fait à moi, qui suis le moindre de tous les saints, le plus petit de tous les saints. Cette grâce a été d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc il y a un grand contraste qui oppose, dans lequel s'oppose l'homme que Dieu utilise, l'homme lui-même, et les immenses richesses de Christ. N'est-ce pas ? Et je pense que tout homme pourrait dire comme Paul, même s'il n'a pas participé au meurtre d'Étienne, il a fait tout autre chose. On peut dire que tout homme qui reçoit un ministère ou tout homme qui ou femme qui a à remplir le témoignage, n'est-ce pas ? Eh bien, alors on peut voir ce contraste. Vraiment, la pauvreté de l'homme, la petitesse de l'homme, à côté des immenses richesses qu'il s'agit de recevoir de Dieu, que reçu de Dieu et qu'il s'agit de dispenser, de distribuer autour de soi. Les richesses incompréhensibles de Christ, on pourrait dire, c'est la richesse de la grâce, c'est la richesse de la gloire, de l'héritage, c'est la plénitude de l'esprit et la plénitude de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, ces grandes richesses, puisque la plénitude de Dieu est en Christ. Tout cela, ce sont les richesses incompréhensibles. C'est incompréhensible, n'est-ce pas, que dans un homme, par un homme qui a été crucifié, et même que nous savons être ressuscité et glorifié, incompréhensible que toutes ces choses nous soient données. N'essayez pas de les raisonner, on peut les comprendre par des voies spirituelles, mais non pas les raisonner, ça reste incompréhensible. L'apôtre dit bien deux choses ici. La grâce lui a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. D'annoncer aux païens, ça, c'est de proclamer aux païens, suivant un mot grec qui est employé ici, le mot grec dont on a fait évangélisation, évangéliser, d'annoncer. Et puis, verset 9, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, ça, c'est l'enseignement, enseigner. Il a donc fait deux choses, était chargé de faire deux choses, d'annoncer aux païens, c'est-à-dire de proclamer, comme le faisait le Seigneur Jésus, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il enseignait. Pas toujours au même. Pas toujours au même, n'est-ce pas? Attention, il proclamait le royaume de Dieu, ça correspond à ce que nous appelons l'évangélisation, à condition que nous fassions de la bonne évangélisation. Alors, évangélisation et enseignement, ce sont deux choses importantes. Nous avons eu l'occasion l'année dernière d'étudier cela et de voir que c'étaient les deux conduits par lesquels coulait l'huile d'or. L'huile d'or qui alimente les chandeliers. Paul était apôtre et il a donc accès à ce double ministère. Seul l'apôtre a cela. L'apôtre a accès à un double ministère, mais ne croyons pas que c'est le fait de tous. Il n'y a pas, les autres ministères ne sont pas polyvalents. Et celui qui est évangéliste est en général peu apte à enseigner, pourra peut-être donner l'enseignement élémentaire, mais s'il se mêle d'enseigner, il va dévier, il risque de se tromper. Donc, il ne faut pas que l'évangéliste enseigne, il ne faut pas que le docteur lui-même se livre à l'évangélisation, il est dit pour lui que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Paul va mettre ici en relief, l'action créatrice de Dieu, la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pas une inutilité. Il met en relief l'action créatrice de Dieu pour rappeler ainsi que la rédemption est, tout comme la création, un acte de la toute-puissance de Dieu. Il faut la puissance créatrice pour créer le ciel, la terre et tout ce qui existe. Et il faut cette même puissance créatrice pour sauver des hommes, les faire naître de nouveau et pour les entrer, les intégrer dans le corps de Christ. Deux choses par conséquent à faire parce que Paul était apôtre. L'action créatrice de Dieu s'emploie à cela. Dans le verset 10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » J'en ai déjà parlé, il s'agit des êtres célestes qui doivent connaître, c'est-à-dire qui doivent obtenir une forte notion intérieure, comme s'ils participaient au salut, une notion intérieure de la sagesse de Dieu qu'il ne connaissait pas dans toute son étendue, dans toutes ses possibilités. Parce qu'il n'y avait pas dans le ciel de champ d'expérience. Voyez-vous? Il n'y avait pas de champ d'expérience dans le ciel. Alors, les anges ne savaient pas quelle était toute l'étendue possible de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire des œuvres extraordinaires que Dieu peut faire pour ramener à lui, pour sauver, pour exercer sa miséricorde, pour satisfaire sa justice. Il ne savait pas, il n'y avait pas de champ d'expérience. Il ne savait pas. Eh bien, de même qu'il ne savait pas ce qu'était le mal avant que Satan ne le fît, n'est-ce pas, ne l'inventât. Il ne savait pas. Ces choses-là, il ne les savait pas. Tout être céleste qu'ils sont. Alors là, Dieu leur dit, eh bien maintenant, le ciel est ouvert. Vous allez regarder en bas. Et vous allez voir ce qui se fait en bas parmi les hommes. Ils regardent. Ils voient. Ils comprennent les ravages du mal. Ils savent que le gouvernement de Satan est une chose qui conduit à la mort. Que c'est un usurpateur. Et vraiment, ils tremblent. La miséricorde de Dieu qui a en eux une pleine assise s'émeut profondément de voir des hommes dans un tel état, n'est-ce pas? Mais il voit aussi venir la sagesse de Dieu, le dessein de Dieu qui agit là parmi les hommes et qui les ramène à la justice à travers Christ. Il voit ces choses. Il voit l'Église où des hommes qui étaient profondément marqués par le péché sont capables cependant d'apparaître déjà comme des saints. Il voit ces choses à sagesse infiniment variée dans un champ d'expérience qu'il n'avait jamais connu. Alors, Dieu veut qu'il connaisse par l'Église, dans ce champ d'expérience, les ressources de sa sagesse, afin qu'eux aussi soient affermis pour plus tard. Ils seront affermis. Et ils auront en somme une connaissance, le mot connaissance est très fort, c'est-à-dire une notion intérieure. Comme si eux, ils ne participent pas au salut, bien entendu. D'ailleurs, les êtres célestes qui sont avec Dieu sont des êtres purs, n'ont pas besoin de salut. Bon, mais quant aux démons, ils n'en ont pas de salut. Ah, mais ils ne participent pas au salut, mais c'est comme s'ils y participaient tellement ils pénètrent. Ils peuvent pénétrer avec l'intelligence qu'ils ont, ils peuvent pénétrer, n'est-ce pas, la sagesse infiniment variée de Dieu, la voir à l'œuvre. C'est une sagesse qui est variée parce qu'elle s'adapte à toute situation, à tout cœur d'homme, une sagesse qui est parvenue à sauver des créatures tellement séparées de Dieu. Vraiment, la sagesse de Dieu a des ressources infinies, variées, étonnantes, pour les anges. Et vous savez qu'un les anges chante un cantique quand il y a seulement une seule âme d'homme qui se convertit. Et puis, le dessein éternel est rappelé dans le verset 11, je n'insisterai pas. On a déjà vu cela, c'est un peu une répétition. Prenons le verset 13, le dernier, pour aujourd'hui. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Alors, Paul, n'est-ce pas, qui est en prison et qui écrit de là en tant qu'apôtre, exerçant son ministère d'apôtre, a tout de même une petite appréhension concernant les chrétiens, pas pour lui, mais pour les chrétiens. Il a une appréhension, c'est que les chrétiens soient un peu découragés en disant, mais oh, vraiment, nous allons de revers en revers, nous allons d'épreuve en épreuve, c'est pourquoi Dieu ne... quand même ne tirerait-il pas Paul de sa prison? Pierre a bien été tiré, lui, de sa prison. Pourquoi Paul demeure-t-il si longtemps en prison? Que se passe-t-il? Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? Voyez, il pourrait y avoir un processus de découragement. Alors, Paul va au-devant et il va leur dire de ne pas regarder à ce qui paraîtrait une faiblesse, à ce qui paraîtrait même une absence de bénédiction de la part de Dieu, n'est-ce pas, un revers, une défaite, parce que c'est en réalité votre gloire, leur dit-il. Pour en arriver à cette idée, Paul supporte des souffrances en rapport avec la conversion des destinataires de la lettre. Il supporte des souffrances, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a été animé par une grande charité et qu'il a voulu continuer à annoncer l'Évangile. S'il s'était abstenu, il ne serait pas en prison. Enfin, alors, Paul supporte des souffrances en rapport avec la conversion des gens auxquels il s'adresse, et par conséquent, il leur dit, si je suis en prison, c'est parce que je vous ai annoncé l'Évangile, vous l'avez écouté, vous vous êtes convertis, vous formez maintenant des églises, eh bien moi je suis en prison à cause de ça, mais c'est votre gloire, c'est votre gloire. Et on peut dire que, aujourd'hui, avoir un pasteur qui met sa confiance non pas dans l'approbation du monde, ni dans la complaisance des hommes, mais dans la croix de Jésus-Christ, ça, c'est une gloire pour l'Église. C'est toujours une gloire pour l'Église. Un pasteur qui, le premier, porte sa croix et suit Jésus-Christ, c'est une gloire. C'est une gloire. C'est ainsi qu'il est dit dans une autre épître, honoré de tels hommes, n'est-ce pas? Mais Pierre dit bien que les pasteurs, les anciens, dont par conséquent les pasteurs, comme on dit maintenant, les anciens, eh bien, doivent être les modèles du troupeau. Les modèles du troupeau. C'est donc une gloire aux églises à imiter ces pasteurs qui portent leur croix et qui suivent vraiment Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous dit l'apôtre Paul. Il porte sa croix, non pas porter la croix signifiant porter une difficulté, porter tellement, mais c'est tout de même porter les souffrances de Christ, n'est-ce pas? C'est porter l'opprobre de Christ, les souffrances de Christ, c'est être soi-même, c'est accepter soi-même d'être constamment crucifié pour Christ. Eh bien, à cause de Christ, crucifié avec lui, c'est cela, et c'est une gloire pour l'Église. Il n'y a pas de gloire dans le fait que le pasteur est président de toutes sortes de grandes choses internationales, n'est-ce pas? C'est pas ça la gloire. Non, non. Mais pas ça. Oh, moi, je me rappelle dans une dénomination, je n'en dirai pas le nom, mais le pasteur était un personnage très important, et deux ou trois des membres avec qui je parlais disaient, notre pasteur, c'est quelqu'un. Il est écouté, ceci, cela, il est président de ceci, il est directeur de cela. Magnifique. Mais la gloire, ce n'est pas ça. On devrait pouvoir dire, notre pasteur est en prison. Et c'est là notre gloire. C'est là notre gloire. Nous tirons une gloire du fait que notre pasteur, n'est-ce pas, il est persécuté parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a annoncé un évangile puissant, parce qu'il n'a pas craint, il n'a pas eu peur des hommes pour nous sauver, nous. C'est ça notre gloire. Amen.